France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour ce numéro un peu spécial consacré au terrorisme. Alors, ce n'est pas une idée politique, mais c'est un isme et c'est un mot de la politique. Un mot qui a divisé la gauche ces derniers temps. Qu'est-ce que le terrorisme ? Pour répondre à cette question, il faut retracer l'histoire de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de ce mot. Son sens politique n'est pas équivalent à son acception juridique. Comment manier un vocable qui recouvre tant d'actes aussi incomparables que les agissements des anarchistes nihilistes de la fin du 19e siècle, des irrédentistes balkaniques du début du 20e siècle, en passant par ceux des plastiqueurs de résidences secondaires en Corse, ceux des résistants de la Fiche Rouge, des Irlandais de l'IRA, des massacreurs du Hamas, ou même, ils sont taxés d'éco-terroristes, des perceurs de mégabassines en Charente. Et pour comprendre le au terrorisme, il faut voyager dans l'espace et dans le temps. Alors pour cela, je suis allé voir Jenny Raflick, historienne au Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique. Jenny Raflick est l'autrice de « Terrorisme en France, une histoire du 19 et 20e siècle » aux éditions du CERF.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Jenny Raflick, on va commencer par le début, on va commencer par essayer de définir ce terme qui fait polémique. Qu'est-ce que le terrorisme ?
S'il fait polémique, c'est justement parce qu'il n'y a pas de définition claire de ce mot. Alors, on a une définition juridique en France. C'est la loi de 1986 qui dit, je cite, que c'est une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Quand même large.
C'est très large. Évidemment, ça va être sujet à beaucoup d'interprétations, non seulement par la justice, mais aussi, évidemment, par l'opinion publique, les médias. D'où cette question qui se pose et qui revient de façon récurrente, y compris sur les antennes de France Inter, à chaque fois qu'il y a un attentat, parce qu'il n'y a pas plus de définition d'ailleurs du mot attentat que du mot terrorisme. Est-ce qu'on est face à un acte terroriste ou pas ? Criminalité, terrorisme, violence politique ?
Oui, on attend de voir qui est saisi, quel est le juge qui est saisi, et si c'est qualifié de terroriste par la justice et par les enquêteurs, on attend ça. Est-ce qu'avant 1986, le législateur ne s'est jamais penché sur ce mot-là ?
Alors, le mot est vraiment un objet de débat, à la fois en France, pour la législation française, pour les différents régimes, mais aussi à l'échelle internationale, entre pays. C'est vraiment un enjeu depuis le 19e siècle. Et on voit que depuis le 19e siècle, on tourne autour d'un type de violence, un peu différent des autres. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas justement à bien définir. Alors, on en parle à l'international dès 1898. La première grande conférence internationale qui se penche sur la question du terrorisme, c'est 1898. Donc, c'est vraiment très tôt. Parce qu'en fait, il y a déjà des terrorismes nationalistes, indépendantistes, séparatistes qui existent déjà. Mais faute de tomber d'accord sur une définition du mot ou du concept de terrorisme, on préfère cibler l'anarchisme. C'est aussi ce qu'on fait à l'époque dans un cadre national. Les lois scélérates visent uniquement la violence de type anarchiste.
Alors on va y revenir, les lois scélérates contre les anarchistes, contre la propagande par le fait. Mais on va revenir quand même à l'origine du mot. À quel moment apparaît dans le langage politique le mot terroriste ?
Le mot, il apparaît d'abord dans le contexte de la terreur, pour désigner les partisans de Robespierre.
Mais c'est un stigmate, c'est une insulte.
Effectivement, d'emblée, et ça c'est vraiment particulièrement important, d'emblée c'est péjoratif. Ce sont les détracteurs de Robespierre qui vont qualifier Robespierre et ses partisans de terroristes. Terroriste avant terrorisme. Le mot terrorisme apparaît un tout petit peu après.
Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution.
Saint-Just, en septembre 1793, extrait du film « La Révolution française, les années terribles ».
Seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. La terreur est à l'ordre du jour.
Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
Donc là, on a entendu Saint-Just, General Flick. En réalité, la terreur, elle est revendiquée. Il n'y a pas le suffixe « isme ». Mais la terreur est vraiment revendiquée par Saint-Just.
On a l'idée déjà de la violence émancipatrice qu'on retrouvera ensuite à de multiples reprises. La terreur, la violence émancipatrice qui va libérer et qui va permettre une forme de progrès. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans les décennies suivantes et y compris dans les siècles suivants, théorisé autour même de l'utilisation de la violence politique.
Alors là, c'est la terreur revendiquée par ceux qui ont le pouvoir. Donc, il y a le même sens qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on terrorise. Mais le mot terrorisme et terroriste réapparaît quand, après la Révolution ?
Alors, dès le milieu du 19e siècle, on voit émerger un autre sens qui est au contraire un mode d'action contre l'État, contre un régime. On le retrouve par exemple dans le dictionnaire Larousse, dans les années 1870. On va avoir la mention du terrorisme du comité d'action polonais. Évidemment, en 1870, la Pologne n'existe pas.
Donc ça veut dire que c'est des nationalistes polonais qui veulent...
Qui se battent pour l'indépendance de la Pologne. Voilà.
Mais alors est-ce qu'à ce moment-là, les Polonais qui se battent pour l'indépendance de la Pologne, est-ce que c'est déjà l'idée de frapper à l'aveugle ?
Non, absolument pas. On est dans un mode de violence type insurrectionnel. On a d'ailleurs la même utilisation du mot pour les Balkans, dans l'Empire ottoman, pour des mouvements macédoniens. Je pense aussi aux Oustachis, aux
communautés. C'est toujours du nationalisme ou de l'irrédentisme.
De l'indépendantisme, du séparatisme. Voilà, tous ces mots finalement vont fonctionner, hein, mais pour des mouvements qui utilisent une violence type insurrectionnelle, véritablement plus militaire, hein, mais contre un pouvoir légal.
Est-ce que ce mot est déjà populaire ? Est-ce qu'on le trouve dans la presse ? Est-ce qu'on taxe des mouvements pour les stigmatiser de terroristes ?
Dans la presse, ce mot se popularise vraiment pour les anarchistes.
Oui, donc à la fin du 19e siècle.
Voilà, à la fin du 19e siècle. Et là, le mot est utilisé effectivement dans un discours médiatique, dans un discours policier. Et là, c'est vraiment le moment où le mot se répand. Notamment pour se distinguer du vocabulaire utilisé par les anarchistes, propagande par le fait, action directe, pour mettre la terreur de leur côté et ne pas légitimer par des expressions qui expliquent leur utilisation de la violence. Donc le mot est vraiment une mise à distance.
C'est là que ça devient un stigmate policier.
Alors, ça devient un stigmate policier. Le mot est vraiment partout dans les rapports policiers. Chaque acte émanant de ce qu'on va appeler la classe dangereuse, de la classe ouvrière, peut être qualifié ainsi, quand bien même il n'y a pas derrière de véritable finalité politique. On a aussi un certain nombre d'actions qui relèvent plus de la criminalité, attaques de banques, voilà,
oui, la bande à Bono,
pour lesquelles on ne sait pas trop si c'est politique, criminel. Le mot permet en tout cas de les disqualifier.
Par exemple, on sait qu'au début du XXe siècle, dans les mouvements anarchistes, les individualistes se posaient la question de la violence ou pas, avec Victor Serge, avec Bono, justement. Est-ce que, entre eux, ils se disaient « attention au terrorisme, attention s'il y a du terrorisme » ou ça reste un discours policier à l'époque ?
Non, c'est un discours policier. Eux parlent de propagande par le fait, d'action directe. Ils reprennent aussi tout le vocabulaire issu de la Révolution française, justement autour de cette violence légitime, émancipatrice. Mais ils n'utilisent pas le mot terroriste. Et puis, il faut rappeler aussi que l'utilisation de la violence, c'est une infime minorité qui pose des bombes ou bien qui utilise des armes blanches dans la rue. Voilà.
Et là, je renvoie les auditeurs aux 4 épisodes d'Enquête de politique sur l'anarchisme, où on parle de tout ça. General Flick, il y a un aspect dans le mot terroriste, c'est le terrorisme s'attaque aveuglément aux civils. Que ça soit vrai ou pas, en tout cas, ceux qui dénoncent le terroriste commencent par dénoncer ça. Ça apparaît quand, cette spécificité ?
Le premier attentat considéré comme étant un attentat à l'aveugle, c'est l'attentat d'Émile Henry, contre la terrasse de café de l'hôtel Terminus à la gare Saint-Lazare en 1894. Parce que, effectivement, là, une terrasse de café, voilà, il n'y a pas de cible spécifique. C'est pas un assassinat politique de personnalité, de souverain, de chef d'État, voilà, comme ça dit Carnot. On est sur un lieu public.
C'est un acte nihiliste, un petit peu à l'aveugle, comme ça, ouais.
Alors, ça l'est pas à 100%, et notamment Émile Henry, lors de son procès, le justifie de deux façons. Un, la vengeance. Un des serveurs de café avait dénoncé un autre anarchiste. Et surtout, parce que, et ça c'est ce qu'on va retrouver très souvent dans ces attentats qu'on qualifie d'aveugles, Émile Henry estime que les cafés sont fréquentés par des bourgeois que les bourgeois sont les ennemis des anarchistes et que donc c'est la catégorie sociale de la bourgeoisie qui l'a attaqué en attaquant un café.
Alors, ce qu'on appelle un attentat de classe.
Un attentat de classe.
Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous donnons la mort. Nous savons la subir.
Lecture du propos de l'anarchiste Émile Henry lors de son procès en avril 1894.
Les meurs de faim commencent à connaître le chemin de vos cafés et de vos grands restaurants. La férocité de la classe dirigeante a tué chez nous la pitié et la sensiblerie. Nous nous rappelons ce qu'a coûté de sang le règne du capital et à notre tour, disons, nous n'en tuerons jamais assez.
Nous n'en tuerons jamais assez, dit Émile Henry. Il reprend ici la phrase en fait, d'un général versaillais à propos des communards et ça illustre parfaitement le mot du philosophe Jacob Rogodzinski dans Le Monde, daté de mercredi dernier, qui disait « Tous les terroristes se justifient en prétendant réparer un tort. »
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Et on retrouve l'historienne Jenny Raflick pour la suite de notre enquête de politique spéciale terrorisme. Le terrorisme ne serait-il pas, tout simplement, la terreur par l'attentat à l'aveugle ?
De fait, ce qu'on appelle les attentats à l'aveugle sont toujours ressentis à l'aveugle par les victimes, par la société qui les subit. Mais il est plus que rarissime qu'ils aient été commis véritablement à l'aveugle. Celui qui pose sa bombe ou celui qui lance une grenade dans un lieu le fait avec sa logique propre, parce qu'il identifie les bourgeois, des mécréants, une nationalité ou une catégorie sociale.
Oui, pour revenir à notre époque, les terrasses des cafés de quartier un petit peu melting pot,
le vivre ensemble,
c'est ce qui était visé.
Le vivre ensemble était visé. Le 14 juillet à Nice, évidemment, c'est la fête nationale, donc ce sont des gens qui se rendent sur la fête nationale. On se pose souvent la question, le terroriste est-il fou dans sa lecture des choses, voilà, est-il aveuglé par sa haine ? Mais le terroriste a sa logique à lui, et ses cibles, elles répondent à une logique qui peut nous échapper, mais elles répondent à une logique. Et donc, on est d'emblée dans toujours ce flou, finalement, entre l'attentat politique, quelle qu'en soit la raison, même si elle est religieuse, c'est toujours une forme de politique, finalement. Et puis, ce qu'on va ressentir, la terreur, parce que le sentiment qu'on n'est plus à l'abri nulle part, ce décalage, il est permanent et on le trouve dès le 19e siècle.
Jenny Raflick, il y a un attentat qu'on considère toujours comme le point de départ de la guerre de 14, à Sarajevo, l'archiduc d'Autriche. Est-ce qu'on le dit attentat terroriste ?
Alors, le mot, à ma connaissance, n'est pas utilisé. En revanche, la main noire, l'organisation qui est derrière, va être qualifiée d'organisation terroriste. Mais sans doute...
Donc des nationalistes.
Voilà, des nationalistes.
Vous avez entendu parler de la main noire ?
Oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. C'est une société secrète serbo-croate, non ?
Oui.
Extrait de la série Les Brigades du Tigre.
Et vous pensez qu'elle aurait des ramifications jusque chez nous ?
Mais, j'en suis sûr. Il s'agit d'une organisation terroriste dangereuse et efficace. Tellement même que le roi Pierre Ier de Serbie a dû les bannir de son territoire pour ne pas s'attirer les représailles de l'Autriche. Et depuis, ils ont essaimé un peu partout en Europe.
Que cherche-t-il ?
À nuire par tous les moyens à l'Empire austro-hongrois, fût-ce au prix d'une guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi ces enlèvements de sujets serbo-croates m'ennuient. L'affaire peut entraîner la France dans un conflit international.
Je pense que les conséquences, véritablement, de cet attentat, la Première Guerre mondiale, avec le lourd bilan, fait qu'on oublie finalement l'attentat en lui-même, l'individu, et le côté très collectif qui entoure la réaction immédiate, l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, etc., fait que l'acte lui-même n'est plus analysé en tant que tel, en tant qu'acte individuel. Voilà.
C'est un événement géopolitique.
C'est ça, ça devient un événement géopolitique et on passe à autre chose. Et en tout cas, il n'y a pas de réflexion véritablement autour du mot terrorisme à ce moment-là, qui aurait pu être d'ailleurs une solution, une voie de sortie, voilà, pour véritablement en faire un acte individuel et ne pas se lancer dans cet engrenage des alliances. Ce n'est pas ce que veulent les États.
Ça montre bien ce que vous nous dites, c'est que le mot terroriste est utilisé par les États ou pas, selon leur intérêt.
Il y a un enjeu très important derrière, qui se pose d'ailleurs depuis la fin du 19e siècle, qui est la question du droit d'asile et des problèmes d'extradition. C'est toujours d'ailleurs une forme de question qui se pose aujourd'hui. Hein. On peut penser au débat très récent sur les demandes d'extradition de Brigade Rouge par l'Italie. Alors la question finalement sur la longue durée est toujours la même. Les crimes politiques sont exclus des traités d'extradition. On offre le droit d'asile politique, notamment aux opposants. Alors, pour la période dont on parle, les opposants des régimes autoritaires, type Russie tsariste, par exemple, obtiennent le droit d'asile en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, de façon régulière. Or, le mot terrorisme va être utilisé, comme une catégorie juridique qui permet finalement leur extradition. Donc, on a un débat permanent entre les démocraties et les régimes plus autoritaires. Les démocraties cherchant à limiter l'utilisation du mot et à garder intact le droit d'asile, et les régimes autoritaires cherchant à utiliser au maximum ce mot et ce concept de façon à récupérer leurs opposants politiques et donc à en faire un instrument de répression. Donc cette instrumentalisation par les États, elle pèse très lourd ensuite sur l'utilisation des mots, notamment dans nos démocraties.
1934, l'assassinat à Marseille d'Alexandre Ier de Yougoslavie, c'est le premier attentat filmé. Alors on passe à 1934, là il y a un événement à Marseille où le mot terrorisme réapparaît.
1934, le roi Alexandre de Yougoslavie est assassiné à Marseille. Le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou, qui est dans la voiture à côté de lui, meurt aussi. Alors là, le mot réapparaît parce que le président du Conseil français trouve que c'est une bonne opportunité politique et on retrouve un peu l'instrumentalisation par les États. Quelle est la question posée par l'attentat de Marseille et la mort d'Alexandre de Yougoslavie? C'est la question des traités de paix et la possible révision des traités de paix de la Première Guerre mondiale. Le président du Conseil français de l'époque, qui est Pierre Laval, n'a pas du tout envie de rentrer dans un débat sur la révision potentielle des traités de paix. Ça pose trop de questionnements géopolitiques et donc il a l'idée de détourner cet attentat et de poser devant la Société des Nations la question de la lutte antiterroriste. Et il propose que la Société des Nations rédige une convention internationale pour la lutte contre le terrorisme.
C'est la première convention contre le terrorisme.
C'est la première tentative de définition véritablement internationale. Alors la Société des Nations a bien avancé, son comité se réunit pendant plusieurs années et même met en place un tribunal pénal international qui aurait dû siéger à La Haye pour juger les crimes de terrorisme.
Cette cour n'a jamais siégé.
La Seconde Guerre mondiale éclate, les conventions ont été signées mais elles n'ont jamais été ratifiées.
Alors évidemment, on arrive à la Seconde Guerre mondiale où là, le détournement du mot terroriste est le plus flagrant. Les résistants sont qualifiés de terroristes par le pouvoir vichiste.
Alors, le mot terrorisme, là, est utilisé. Alors, c'est la première fois aussi qu'il rentre dans le droit français, puisqu'il y a une loi éphémère, puisqu'elle est abrogée dès la Libération, mais qu'il mentionne. Il est utilisé pour qualifier les résistants, mais aussi surtout les communistes.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnand, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes de devoir en luttant contre les bandes communaux terroristes.
Et les étrangers aussi, on le voit avec l'affiche rouge où le caractère xénophobe apparaît clairement.
Oui, il n'est pas impossible que ce soit aussi une réminiscence des terrorismes balkaniques, justement, de l'entre-deux-guerres.
On essaye de faire peur avec un étranger photographié, hirsute, sur la fiche rouge, voilà.
Voilà, alors comme le mot a déjà été utilisé dans l'entre-deux-guerres, et notamment après l'attentat de Marseille, hein, pour qualifier ces commandos issus des Balkans, finalement, ça fait aussi appel à une réminiscence et donc ça s'appuie sur un vécu national qui va permettre à la propagande vichiste et à la propagande allemande de rappeler dans l'esprit des gens quelque chose qui n'est pas si lointain. Hein, 1934, on n'est pas si loin. Donc ça s'appuie finalement sur cette histoire aussi.
Enquête de politique avec l'historienne Jenny Raflick. On poursuit notre exploration de tous les aspects du terrorisme, la chose, le mot, toutes les actions qui ont été taxées de terroristes. Et nous en sommes à la guerre d'Algérie.
À Alger, les étudiants européens ont pris au marché la place des marchands musulmans. Ceux-ci, comme les ouvriers du service de nettoiement, ont déserté la ville européenne après l'attentat du centre d'embauche des dockers qui fit 62 morts et 110 blessés, tous musulmans. Ainsi, chaque jour, mesure-t-on davantage les graves conséquences de la violence entretenue par l'OAS. Sa plus spectaculaire manifestation en ces derniers jours aura été l'explosion du camion-citerne piégé dans le quartier des Tagarins. L'essence, la citerne en contenait 16 000 litres, propagea l'incendie tout au long de l'avenue. Bilan, 3 morts et une trentaine de blessés. Et la fièvre d'Alger s'alimente chaque jour un peu plus à ces attentats qui sèment systématiquement la terreur et aussi la haine.
Le FLN et l'OAS suivent la même logique, ce que Martha Grenshaw a qualifié dans ses travaux sur le FLN de terrorisme d'isolation et de démoralisation. Le but, c'est vraiment de pousser tout le monde à choisir son camp, de créer une situation de non-retour. Il faut que chacun se sente à un moment devant une situation d'une telle injustice, obligé de choisir un camp. Le but, c'est l'escalade. C'est vraiment de susciter la guerre civile. Et le FLN et l'OAS, finalement, posent des bombes pour les mêmes raisons à ce moment-là. Alors, commettent aussi des attentats à l'aveugle, et il faut, notamment sur le territoire algérien, que ce soit le plus sanglant et le plus injuste possible. Je pense à des attentats contre des hôpitaux, par exemple, parce qu'il faut vraiment susciter l'escalade. Voilà, c'est une autre logique terroriste également.
Alors ça, c'est vraiment la théorisation du terrorisme tel qu'on l'entend aujourd'hui.
Oui, et alors ça, c'était exactement la stratégie de l'État islamique, de susciter l'escalade de la violence, la répression, des attentats en représailles, et donc d'aboutir à une forme de guerre civile.
Est-ce que c'est fait aussi pour mettre à mal les démocraties libérales qui ont des contre-pouvoirs et qui donnent une grande place aux libertés individuelles, en rabattent et deviennent de plus en plus sécuritaires ?
C'est vraiment le piège dans cette stratégie terroriste de jouer sur le couple liberté-sécurité. Est-ce qu'on va sacrifier des éléments de notre liberté pour assurer notre sécurité, quitte à se renier et finalement à jouer ainsi le jeu des terroristes? Alors, c'est pour ça que les démocraties sont particulièrement ciblées par les organisations terroristes, parce qu'elles vont offrir cette faille, mais qui, avec le recul, on l'a vu, et on l'a vu encore récemment, est aussi un facteur de résistance. Et en définitive, les démocraties ont toujours, depuis le XIXe siècle, plutôt bien résisté à cette stratégie terroriste, ne sont pas tombées dans le piège. On n'a pas eu de guerre civile. Voilà, après les attentats de 2015, c'était pourtant clairement la stratégie de l'État islamique qui le revendiquait comme tel. Même si on reprend l'exemple de l'Italie, la stratégie de la tension, la démocratie a tenu le coup.
Enquête de politique cette semaine, une fois n'est pas coutume, et parce que l'actualité est si lourde, nous collons aux événements et parlons avec l'historienne Jenny Raflick de terrorisme, c'est notre isme du jour. L'émission est réalisée par Christophe Imbert, pleine d'archives dénichées par Franck Olivard, la technique cette semaine, Guillaume Roux, et vous pouvez podcaster cet épisode comme tous les autres, ceux qui sont déjà diffusés, via le site de Radio France. On retrouve Jenny Raflick et on se projette 40-50 ans en arrière.
En France, on a dans ces années 70-80 des mouvements très 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 différents qui vont se retrouver autour d'une idéologie révolutionnaire, mais avec des revendications qui ne sont pas toutes de même nature. Et en particulier, on a ce qu'on peut qualifier de terrorisme d'importation qui se multiplie dans ces années-là. Les groupes palestiniens qui viennent frapper la France, le FPLP, le groupe Abou Nidal. Ensuite, on va avoir les Arméniens, la Zala, qui commet aussi un certain nombre d'attentats. Ces groupes agissent de concert avec les groupes politiques, notamment d'extrême gauche. À plusieurs reprises, on va trouver, agissant ensemble, des membres d'Action Directe, de la fraction Armée Rouge, des Palestiniens et des Arméniens.
Voilà. Avec des États derrière qui instrumentalisent ?
Avec des États
qui
derrière.
Qui téléguident, qui financent ?
Qui instrumentalisent. On a à la fois des États qui servent de base arrière, je pense au Liban, où sont installés les camps de réfugiés palestiniens et beaucoup de réfugiés arméniens, et qui servent véritablement de base arrière logistique, de plaque tournante. Et puis aussi des États qui fournissent des armes, alors qu'ils les fournissent de façon plus ou moins dissimulée. Il se trouve que ces groupes utilisent beaucoup d'explosifs d'origine tchécoslovaque, par exemple. La Tchécoslovaquie ne fournit pas directement, mais les armes circulent. Effectivement, les pays de l'Est, on est en pleine guerre froide, vont trouver un intérêt à ce que ces groupes déstabilisent les pays du bloc occidental.
Et l'idée, c'est toujours de fragiliser la démocratie.
Voilà, de fragiliser la démocratie, de jouer des failles. Alors, le bloc communiste agit de façon très indirecte. On voit des faux papiers circuler, on voit pas mal d'explosifs circuler. Très indirecte, avec méfiance aussi hein, à l'égard de ces groupes quand même, parce que justement, ces groupes ne sont pas d'une stricte obédience marxiste et représentent pas mal finalement de rivalités au sein du camp communiste en guerre froide. Mais enfin, affaiblir son ennemi, c'est toujours assez positif.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors, on utilise le mot terroriste, on va continuer notre exploration de l'utilisation du mot. Hein. Souvent, le mot et la chose ne sont pas raccord. On utilise le mot terrorisme, General Flick, à tout propos. Par exemple, est-ce qu'on peut parler de terrorisme corse pour les nationalistes corses ?
Juridiquement, ce sont les lois antiterroristes qui sont utilisées. Et effectivement, aujourd'hui encore, c'est le parquet national antiterroriste qui se saisit dès lors qu'il y a des explosions en Corse, puisqu'elles ont repris récemment. Après, effectivement...
Ils ne cherchent pas à terroriser la population, ils cherchent à faire un peu peur, à faire sauter quelques maisons.
Ils cherchent même à séduire la population concernée. Et là, on a un type de violence qui est différent, dans le sens où cette violence, d'abord, ne tue pas ou peu.
Elle tue le préfet Erignac, mais ce n'est pas un attentat aveugle.
Alors, le cas, l'assassinat du préfet Erignac est même véritablement une exception dans l'histoire du terrorisme corse. Il y a beaucoup de morts en Corse, mais ils sont plutôt dans les règlements de compte internes entre organisations rivales. Sinon, c'est pour l'essentiel des plastiquages de résidences secondaires, de véhicules, de gendarmerie. Voilà, on a un mode d'action qui est vraiment très différent, mais qui relève de la même législation.
General Flick, ce mot est tellement piégé, piégeux, que en parlant du terrorisme corse et en disant « Ah, c'est peut-être pas du terrorisme », vous-même, vous vous demandez si on peut avoir ce débat, c'est compliqué.
Oui, c'est vraiment compliqué, parce que c'est du terrorisme, juridiquement, il n'y a aucun doute, c'est la loi de 86 qui s'applique, le FLNC est sur la liste des organisations terroristes. Mais c'est un autre type de mode opératoire que le terrorisme islamiste, par exemple, ou que d'autres terrorismes politiques.
Oui, c'est quand même problématique de mettre sous le même vocable des Corses qui font sauter des résidences secondaires et des voitures, et puis des terroristes qui mettent des bombes dans les transports en commun.
Voilà, c'est l'éternel problème de ce mot qui est utilisé pour des violences qui sont de nature très, très différente par des groupes et des gens qui, eux aussi, répondent à des logiques très différentes.
Alors, General Flick, puisqu'on en est à l'utilisation et peut-être à la surutilisation du mot terroriste, on pourrait venir au terme d'éco-terrorisme.
Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation, avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme.
Ça apparaît comme un peu abusif quand même, quand on pense aux jeunes de Notre-Dame-des-Landes ou de Sainte-Soline concernant les méga-bassines. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'éco-terrorisme. Comment l'historienne, je ne vais pas vous demander de faire de la politique, mais comment l'historienne que vous êtes réagit à cette appellation ?
L'éco-terrorisme, c'est-à-dire une forme de terrorisme pour des raisons environnementales. Il se trouve qu'on en trouve dans l'histoire, et y compris en France. Dans les années 70, il y a notamment tout un mouvement contre la construction des centrales nucléaires. Alors la centrale de Fessenheim est l'objet d'un attentat, les centrales de Brennilis, de Plogoff. Et c'est évidemment très différent de manifestations violentes. Mais le mot n'est pas utilisé à l'époque, alors qu'il est utilisé aujourd'hui. Donc le contexte politique, évidemment, pèse beaucoup.
Bonsoir.
Bien évidemment, le coup de main terroriste de Munich éclipse tous les autres sujets de l'actualité ce soir.
Et pour la première fois, on va continuer notre voyage un peu macabre. 1972, les Jeux Olympiques de Munich.
C'est un terrorisme palestinien avec l'aide, le soutien de la fraction armée rouge allemande. Donc on retrouve cette synthèse hein, dans les années 70 de ces groupes marxistes, palestiniens marxistes, hein, faut vraiment le rappeler, puisqu'on est dans une première génération d'organisations palestiniennes laïques, très marquées par ce mouvement révolutionnaire mondial qui permet la synthèse avec les groupes européens.
On a oublié, mais à cette époque-là, la question de l'islam n'était pas du tout en tête.
Non, la question ne se pose pas en termes de religion du tout. Les mouvements palestiniens sont des mouvements nationalistes, purs, indépendantistes, qui s'inscrivent vraiment dans ce grand mouvement révolutionnaire mondial, ce qui leur permet d'ailleurs de bénéficier de soutien et d'interaction avec les groupes d'extrême gauche, mais aussi avec d'autres groupes nationalistes, indépendantistes. Il y a des liens aussi avec des mouvements comme ETA, par exemple, ou bien des mouvements comme l'IRA. Mais on voit arriver aussi avec Munich ce qu'on va qualifier alors improprement de terrorisme d'État ou plutôt d'État sponsor du terrorisme, parce que derrière Munich, il y a aussi la Libye de Kadhafi, qui fournit notamment des faux papiers qui aident au transport d'armes. Et on voit arriver finalement des États qui vont utiliser le terrorisme comme un prolongement de leur politique extérieure pour avancer couvert, semi-couvert, parce que personne n'est vraiment dupe hein, sur les actions de Kadhafi, mais véritablement utiliser ça comme un instrument de politique extérieure pour déstabiliser le camp occidental.
On avance, on arrive dans les années 80 avec une série d'attentats en France.
Et on retrouve là un autre acteur étatique qui est l'Iran, derrière ces attentats de 85-86 commis par le Hezbollah. Et là aussi, l'Iran utilise le terrorisme, non seulement à finalité politique, mais surtout géopolitique. On a derrière le contentieux Eurodif, un vieux contentieux sur le nucléaire, un contrat nucléaire qui avait été passé avec le régime du Shah d'Iran avant la révolution de 1979. Et puis on a plusieurs contentieux ensuite qui se développent autour du Liban, de la présence française au Liban. Et donc le terrorisme là aussi comme prolongement de la politique extérieure d'un État.
Une arme des États plus faibles, en tout cas des États qui ne peuvent pas faire la guerre directement.
Des États qui ne peuvent pas faire la guerre, mais qui jouent des faiblesses aussi des démocraties occidentales qui elles-mêmes ne veulent pas faire la guerre à ce moment-là, parce qu'on est toujours en guerre froide.
Et puis on arrive au début des années 90.
Dès les premières minutes de l'attentat, un poste médical avancé est installé dans le bar, situé juste à côté du métro Saint-Michel.
L'Algérie, une guerre civile, et c'est là que apparaît l'islamisme.
La guerre civile en Algérie va très très vite déborder sur le territoire français. On a bien sûr la vague d'attentats de 95, mais on a aussi très très rapidement l'utilisation du territoire français comme base arrière pour le GUA et pour différents acteurs algériens. Et les Français sont tout particulièrement ciblés en Algérie aussi. Alors, on connaît tous l'histoire des moines de Tibérine, mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'attentats qui ont ciblé des Français qui vivaient sur le territoire algérien. Alors, en raison à la fois des liens historiques, évidemment anciens, entre l'Algérie et la France, hein, qui expliquent cette contagion, mais aussi parce qu'on est entré dans une nouvelle phase dans l'histoire du terrorisme, qui en réalité a commencé un petit peu plus tôt, qui a commencé en 1979 en Afghanistan, quand les premiers appels au djihad sont lancés pour aller combattre les soviétiques, avec d'ailleurs plutôt l'aval des pays occidentaux, qui voient avec un regard plutôt positif le mouvement de ces volontaires qui vont combattre les soviétiques. Mais évidemment, avec la fin de la guerre d'Afghanistan, ces moudjahidines qui ont gagné l'auréole de la victoire du combat du djihad en Afghanistan reviennent dans leur pays d'origine. Et on va en trouver en particulier qui reviennent en Algérie, on va en retrouver qui reviennent en Égypte. On peut penser aux attentats de Louxor, qui avait ciblé des touristes, qui sont une des premières semences importantes pour l'opinion publique occidentale, un moment où on prend vraiment conscience de l'évolution de la menace. Ben, on voit aussi quelques Français qui étaient partis en Afghanistan en 79, qui reviennent eux aussi avec l'auréole du djihad, mais aussi surtout avec une expérience du combat, telle qu'il s'est menée en Afghanistan, c'est-à-dire une guerre irrégulière, dont certains modes opératoires ressemblent beaucoup au terrorisme.
Alors pour bien se rendre compte de l'évolution de ce mot terrorisme, de sa constante évolution et de son utilisation à géométrie variable, il faut revenir en 2000. Le Premier ministre Lionel Jospin, en visite au Proche-Orient, évoque le Hezbollah et il parle de terrorisme.
La France qui condamne les attaques du Hezbollah et de toute façon toutes les attaques terroristes qui peuvent être menées, ou qu'elles se mènent d'ailleurs, et notamment contre des soldats ou éventuellement la population civile israélienne, la France donc qui condamne ces attaques a le souci et a eu l'occasion de l'exprimer publiquement que les répliques que nous pouvons comprendre frappent aussi peu que possible les populations civiles.
Hezbollah terrorisme, alors cette affirmation a fait scandale à l'époque et Jacques Chirac, qui était le président de Cohabitation, donc parlera de dérapage de son premier ministre. Nous poursuivons notre voyage dans le temps avec l'historienne Jenny Raflick. On arrive évidemment à l'événement phare dans l'histoire du terrorisme islamiste, le 11 septembre 2001 à New York.
Qui est le point de départ dans la conscience véritablement de ce terrorisme islamiste, de cette menace mondialisée, mais qui, pour la logique d'Al-Qaïda, est un point d'aboutissement, puisqu'il y a eu toute une série d'attentats, 98, 99, voilà, juste avant, y compris une tentative d'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg, avant le 11 septembre 2001. Et finalement, le 11 septembre, c'est le grand coup d'Al-Qaïda. Mais pour eux, c'est plutôt l'aboutissement que le point de départ. En revanche, pour l'Occident, c'est le début de la guerre contre le terrorisme qui est lancée à ce moment-là.
Cette guerre contre le terrorisme demandera beaucoup de temps.
George Bush, juste après l'attentat du 11 septembre 2001.
Et les Américains devront être patients. Je vais être patient. Le temps est maintenant venu pour nous de gagner de manière décisive la première guerre du 21e siècle.
Après le 11 septembre, les États-Unis se lancent dans cette guerre contre le terrorisme, d'abord en Afghanistan. La France est prudente, très
Elle
prudente.
Participe, la France.
Elle participe à des formations, notamment à destination des militaires afghans, dans une seconde phase. C'est aussi l'expérimentation d'une nouvelle forme de guerre. Alors, c'est le moment, de façon significative, on redécouvre à l'échelle internationale ce qu'on va appeler cette guerre contre-insurrectionnelle, et notamment où les États-Unis s'inspirent des écrits d'un officier français, Galoula. Voilà, le parallèle avec la guerre d'Algérie est très très fréquemment fait.
Les méthodes qui avaient été efficaces d'un point de vue militaire, mais totalement inefficaces d'un point de vue politique, et ça se vérifiera à nouveau.
Et c'est exactement ce qui se passe de nouveau en Afghanistan, où la situation dégénère très vite et où, en fait, très rapidement, une multitude de groupes terroristes prospèrent sur le terrain, recrutent et vont commencer à diffuser une propagande qui suscite des départs et qui accélère les départs, notamment des pays occidentaux, vers ces zones de conflit.
Et c'est ça la grande complexité du terrorisme. George Bush avait voulu déclarer la guerre au terrorisme, même s'il s'agissait d'un pays, il voulait presque faire une guerre conventionnelle et chercher les moyens de faire une guerre conventionnelle avec une coalition contre un ennemi un peu fantasmatique qui était le terrorisme. Comme ça ne marche pas, on cherche un vrai ennemi. Et là, c'est l'Irak.
Je vais peut-être revenir un petit peu sur cette question de la rhétorique, parce qu'en fait, on tombe sur une articulation qui, je crois, est importante. On fait la guerre à un ennemi militaire armé, souvent étatique. En tout cas, c'est les lois de la guerre.
On déclare la guerre, voilà. Il y a une date de début de guerre.
Voilà. Or, justement, dans le terrorisme, et l'utilisation du mot a été, de la part des États, et ce depuis le 19e, utilisé pour délégitimer l'adversaire. Mais si on regarde bien, les groupes terroristes utilisent souvent le mot armée. Ils essayent de se présenter comme des États. C'est l'armée irlandaise, c'est la fraction armée rouge allemande, c'est l'armée révolutionnaire bretonne. Ils ont investi cette rhétorique et eux se présentent comme des militaires. Ils vont faire la guerre.
Est-ce que vous voulez nous dire que quand George Bush déclare la guerre au terrorisme, il leur rend un service énorme alors ?
Eh bien, finalement, il tombe dans ce piège rhétorique. Il les reconnaît comme un adversaire quasi-étatique. Et on voit bien que là, il y a une faille extrêmement importante, alors qu'on retrouve aussi quand François Hollande va déclarer la guerre à l'État islamique. Il ne veut pas parler d'État islamique, et François Hollande fait toujours très attention de parler de Daesh, et pas de l'État islamique.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier, c'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France. Contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh.
On ne leur reconnaît pas cette légitimité territoriale, mais en leur faisant la guerre, implicitement, finalement, on leur donne raison. Et donc, c'est vraiment un piège rhétorique dans lequel les démocraties s'enferment elles-mêmes à partir de 2001.
Alors, on a vu depuis le début de cette conversation, Jenny Rafflick, on a vu à quel point le terrorisme, le concept du terrorisme était polymorphe, était compliqué, était très divers à travers les époques et même aujourd'hui. Comment une historienne comme vous, spécialiste du terrorisme et de la mondialisation du terrorisme, c'est votre objet d'étude, comment elle appréhende le débat qui a secoué notre petit monde politique à propos du mot terroriste ou pas du Hamas?
Le premier constat, hein, c'est que ces débats, ils existent depuis que le mot existe de façon permanente. Après, dans l'actualité, juridiquement, on a des bases pour répondre. D'abord, il y a des listes d'organisations terroristes. Le Hamas est sur la liste, au moins française, sur la liste américaine, des organisations terroristes. Donc, en droit français, le Hamas est une organisation terroriste. Voilà, ça, c'est une réponse purement factuelle. Ensuite, ces débats, on voit qu'ils agitent la classe politique. Là aussi, sur la longue durée, et la classe politique, mais aussi la société en tant que telle, sur qu'est-ce que le terrorisme, qu'est-ce qu'un attentat, parce qu'autour de l'action du Hamas, c'est pas seulement est-ce que c'est du terrorisme ou pas du terrorisme, c'est est-ce que c'est un attentat ou est-ce que c'est une guerre. On a vu des réponses parfois compliquées, nous disant c'est pas du terrorisme, mais ce sont des crimes de guerre. Voilà, qui renvoient à des registres juridiques un petit peu différents. Mais tout repose sur justement le flou de ce concept et l'absence d'une définition à l'international. Donc on voit bien à quel point le fait de ne pas avoir une définition juridique universelle à l'échelle, ne serait-ce que des Nations Unies, du terrorisme, est une faille dans laquelle tous les groupes et tous les débats peuvent s'engouffrer.
En fait, c'est un débat politique et pas juridique. On peut séparer le politique du juridique. On peut constater que c'était de la terreur pure et de l'horreur pure, et donc que c'était pas une armée régulière, et donc c'est pas un crime de guerre ou du terrorisme. Ou alors on peut, si on est de l'autre côté, voir le côté très organisé, très planifié, et considérer que ça ressemble à une armée régulière, et donc c'est un crime de guerre. Et finalement, le but du terrorisme étant de nous diviser, c'est réussi, et donc on pourrait en venir à constater que c'est du terrorisme. Il mine nos sociétés.
Oui, c'est le but de toute organisation terroriste, de jouer sur les failles, et notamment les failles de nos régimes démocratiques, pour essayer de s'engouffrer, susciter la division, les débats, les oppositions internes. Et là, indéniablement, c'est réussi.
Et alors, pour finir, il y a ce débat sur comment résister au terrorisme, comment ne pas céder au terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas céder au terrorisme? Est-ce que ça veut dire que les démocraties doivent se renforcer d'un point de vue sécuritaire, ou est-ce qu'elles doivent se renforcer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociétés de liberté, quitte à peut-être laisser quelques failles, quelques brèches dans lesquelles l'insécurité peut se s'immiscer?
Alors, en fait, sur la longue durée, on a deux façons de lutter contre ces violences terroristes. On a de cibler la violence qui pose problème au moment donné, Voilà ce que font les lois scélérates en ciblant les anarchistes. Hein. C'est ce que font un certain nombre de lois et tout simplement aussi de services antiterroristes, de se concentrer sur une menace. Ça, c'est relativement efficace.
Avec du renseignement. Bon, voilà. Les lois scélérates, c'est quand même quelques reculs de liberté, mais depuis, on renforce le renseignement.
Voilà, oui, les lois scélérates portaient notamment sur la propagande, et donc c'était réprimer la propagande. Mais on voit depuis maintenant plusieurs décennies hein, se développer un renseignement, des services d'enquête, voilà, de plus en plus efficaces systématiquement, avec des réorganisations d'ailleurs assez fréquentes, hein, centrées sur les principales menaces intérieures ou extérieures. On a en France toute l'articulation entre renseignement intérieur et renseignement extérieur.
Avec le risque quand même de surveillance de masse et qui peut exister.
Oui, mais avec aussi les contre-pouvoirs qui existent voilà, sur l'utilisation du numérique, la vie privée, etc.
Ouais, le contrôle du juge.
Voilà, aussi. Donc, on a cet équilibre que les démocraties font vivre. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est la lutte contre le terrorisme de façon plus global finalement, ce qui supposerait presque d'être déjà en train de réfléchir et de lutter contre ce qui sera la prochaine menace et pas la menace actuelle. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est quoi la prochaine menace ?
Alors, moi, je suis historienne, je travaille sur le passé, donc je ne me risquerai surtout pas à prévoir l'avenir. Mais on voit que c'est là, sans doute, que les instrumentalisations politiques sont les plus aptes à faire leur chemin dans la façon de dénoncer tel ou tel futur ennemi.
On peut dire que, par certains aspects, les États-Unis, quelquefois, ont cédé au terrorisme.
Oui, les États-Unis ont vraiment connu un tournant sécuritaire post-11 septembre 2001 avec des débats, et heureusement qui nous semblent à nous en France, parce qu'on a résisté à ça, surréalistes, autour de l'efficacité de la torture. C'est-à-dire qu'on, pendant 2001-2002, enfin après le 11 septembre, on ne se demande pas aux États-Unis si c'est bien ou pas bien de torturer, on se demande si c'est efficace, si c'est utile dans la lutte contre le terrorisme.
On sait qu'on torture à Guantanamo d'ailleurs.
Et voilà, et aller chercher à Guantanamo toutes les failles juridiques pour garder cette prison, avec un consensus d'ailleurs entre démocrates et républicains, puisque cette prison de Guantanamo a survécu à plusieurs administrations. Donc je pense que la société française a bien résisté dans le sens où elle n'est pas tombée dans ces pièges-là.
La France n'est pas tombée dans ce piège-là, c'est vrai. Mais attention, la tentation de sacrifier toujours plus de liberté et de droits pour plus de sécurité est une tentation de laquelle nous ne sommes pas à l'abri. La teneur du débat politique en ce moment le prouve. Le terrorisme est un poison fait pour nous forcer à changer de modèle et à renoncer à nos libertés. Ce serait quand même un comble d'y renoncer pour combattre le terrorisme. Ce serait justement céder au terrorisme. La semaine prochaine, une autre émission inspirée par l'actualité avec ce mot, le sionisme. D'ici là, souvenez-vous, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.